Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal Pierrot et la Mégie.
Et voici les sommaires de votre journal. Que disent les habitants de Lubumbashi dans les Haut-Katanga après la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre? Sur la plupart, juge judiciaire les choix portés sur lui. D'autres veulent le juger à l'œuvre, comme nous le dira Jean Andou dans ce journal. Assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, il n'y aura pas d'intouchable. Selon le vice-ministre de la Justice Bernard Takaïche, les mécanismes de réexamen de la requête relative à la révision du procès du double assassinat seront actionnés. Mais que dit la loi à propos d'un procès de révision? Les détails dans ce journal. Situation humanitaire dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu. L'ampleur du phénomène ADEF malgré les opérations militaires de grande envergure menées par les FARDC. Nous en parlons avec Kassomo Malamasa, coordonnateur pays de l'ONG Africa Mani, qui revient d'une tournée dans cette partie de la province. Il est l'invité de votre journal. Merci de suivre ce journal mis en onde par Jean-Claude Ntiala. Mais commençons d'abord avec cette information urgente. Dans le territoire des Béni, 10 civils tués et 2 maisons incendiées. C'est le bilan d'une attaque des présumés rebelles ADEF dans la nuit d'hier lundi à ce mardi dans le secteur des Rwenzori. Ce premier bilan provisoire est dressé par le noyau de la société civile des Rwenzori. André Kitenge nous en dit plus.
C'est aux environs des 19h que les assaillants ont fait incursion simultanément dans deux villages du secteur de Rwenzori. Il s'agit de Libokora et Kalembo dans le groupement Malambo. Selon Wilson Batoleni, le président du noyau de la société civile du secteur de Rwenzori, ces rebelles ont commencé par opérer au village Libokora, ensuite à celui de Kalembo pendant environ 2 heures. Dans leur attaque, ils ont tué 10 civils dont 4 femmes et 6 hommes par balle et à l'armée blanche. À ce bilan s'ajoutent 2 maisons et une position militaire incendiée par les assaillants. La même source affirme que nuit était l'intervention des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO déployés dans la région. Le bilan serait lourd. Pour le moment, les FARDC poursuivent avec les opérations de traque de l'ennemi dans la zone. Alors que la fouille pour retrouver d'éventuels corps et survivants se poursuit, indique le président de la société civile, plusieurs habitants des villages attaqués sont portés disparus. L'hypothèse de prise d'otages par les assaillants serait plausible. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Revenons-en maintenant à la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui suscite beaucoup de réactions. Si la plupart des gens jugent les choix portés sur lui judiciaires, d'autres veulent les juger à l'œuvre. Et là, nous sommes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Notre collègue Jean Andou a fait le tour de la ville. Il nous présente les avis des uns et des autres.
La nouvelle de la désignation de Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre est presque sur toutes les lèvres, allant des acteurs politiques, passant par la société civile et chutant par les agents de la Gécamines, dont il a été le directeur général, chacun y va de son propre commentaire. Pour Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza, Sama Lukonde est l'homme de la situation.
C'est pas un arriviste, beaucoup de gens ne le connaissent pas, c'est un ancien ministre. C'est un combattant, c'est un intellectuel de haut niveau, c'est un jeune, c'est l'homme du moment. Attendons-les à l'heure. Le choix a été judicieux.
D'après Christian Momatz, membre du bureau politique d'Ensemble pour la République, le repromis est un bon manager, ayant tous les atouts et est pragmatique dans la gestion, le cas de la Gécamines. Pour Chulu Kaloa, président du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, Sama Lukonde, c'est un homme qui a un parcours élogieux et est constant dans la manière de faire les choses. Quant aux agents de la Gécamines, c'est un sentiment mitigé qui les anime.
Nous sommes fiers que la Gécamines ait été honorée. La Gécamines a commencé à renaître de ses cendres. Quelque part aussi, nous sommes un peu malheureux parce qu'il n'est même pas arrivé au quart de ce qu'il avait commencé.
Il nous a laissé comme orphelins puisqu'on payait régulièrement, même du côté à Paris, le produit pharmaceutique.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Capi.
24 heures après la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre par le président de la République, certains Kinois interrogés disent attendre de lui l'amélioration du social des Congolais, comme ils le disent au micro de Kanish Mukongo Shambui.
Tout ce que nous attendons du nouveau Premier ministre, c'est un changement positif pour la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas revivre la scène qui s'est passée avec l'ancien Premier ministre. Tout se faisait sous prétexte d'une autorité morale. Alors nous voulons que ce nouveau Premier ministre puisse vraiment s'appliquer pour l'intérêt de la population.
On attend beaucoup de lui.
Premièrement, il faut qu'il améliore la vie sociale de la population, les salaires des enseignants surtout, les conditions de vie, de transport, l'électricité, l'eau. On a même un grand fleuve, mais on a un problème d'eau. La sécurité aussi.
Le changement d'abord, un changement positif. Qu'il ne puisse pas répéter les mêmes erreurs que les précédents ont fait. Nous voulons des travails pour les jeunes. Il n'est pas là pour enrichir sa famille. Il est là pour la population congolaise.
Il faut aussi qu'il implique aussi des jeunes dans beaucoup de ministères pour que l'avenir des maîtres de notre pays soit assuré.
C'est un monsieur qu'on connaît un peu bien. On voulait avoir un jeune qui soit dynamique et apte, qu'il fasse des sommets pour que nous, population, nous puissions nous retrouver parce que nous souffrons aujourd'hui. Alors, bonne chance, monsieur le nouveau premier ministre.
Tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans le double assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana seront jugés. Il n'y aura pas d'intouchables. Le ton a été donné par le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïché. Selon le vice-ministre, dès son retour à Kinshasa, les mécanismes de réexamen de la requête relative à la révision du procès du double assassinat seront actionnés. Mais que dit la loi à propos d'un procès de révision, l'essor des témoins et les délais? Éclairage de Jeff Ngoy.
La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive en raison de nouveaux éléments. La loi parlant de la révision d'un procès a pu envisager cette procédure dans le cadre des personnes peut-être qui ont été innocemment condamnées et qui, après la découverte de certains dossiers, ne seraient plus coupables. À ce moment-là, ces personnes introduisent une requête pour une demande en révision au regard de nouvelles pièces avec de nouveaux témoignages. Les cas des jurés jurisprudence dans le cadre d'une demande par la personne condamnée sont les gens. Les plus illustratifs, notamment le procès Koyagia, le condamné, puis innocenté 21 ans après l'opération dite Matiti Mboka du campus universitaire de Lubumbashi en 1990. S'agissant du sort des témoins, il faut signaler qu'il en existe de deux types. Des témoins qui ne sont pas acteurs dans l'infraction. Ils bénéficient d'une protection selon les mécanismes de protection des témoins. Mais lorsque celui qui s'est dit témoin a été acteur dans les affres d'assassinat. Par exemple, il faut l'inviter à la coopération de la manifestation de la vérité. Tout ce qui peut jouer en sa faveur, ce sont les circonstances atténuantes lors de la condamnation pour avoir collaboré avec la justice à cette manifestation. Il n'y a pas donc de délai pour la révision. Une affaire peut être réjugée à tout moment quand il y a de nouveaux éléments.
Dans la province de Lomami, arrestation ce lundi à Kabinda du directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST Lomami. Le parquet général près la cour d'appel de cette province les poursuit pour faux et usage de faux, des arrêtés, des recrutements des agents, détournement des deniers publics et la mécanisation des enseignants fictifs au détriment des vrais enseignants. Explication Esther Ndalafina.
Pichu Désiré Kapenga a passé ce lundi sa première nuit à la prison centrale de Ludimbi dans la ville de Kabinda. Interpellé par le parquet près la cour d'appel de Lomami, le directeur provincial de l'EPST a été entendu pendant plusieurs heures avant d'être transféré le soir à la maison carcérale. Les sources judiciaires affirment que le directeur provincial de l'EPST est poursuivi pour détournement de deniers publics, faux et usage des faux des arrêtés antidatés de recrutement, la création des écoles fictives ainsi que la mécanisation des faux enseignants qui touchent régulièrement les salaires au détriment des vrais bénéficiaires. L'arrestation du directeur provincial de l'EPST Lomami ramène le chiffre total à 10 des personnes arrêtées dans l'affaire de la création des écoles fictives dans cette province. Il y a de cela deux semaines que le parquet a arrêté successivement les directeurs provinciaux de services d'encadrement, de contrôle et de la paye des enseignants, SECOP en sigle, les chefs d'antenne urbaine de ces services ainsi que 7 faux enseignants, dont un directeur d'une école fictive qui avait déjà retiré les salaires au niveau de la banque. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, tous les élèves sont appelés à se présenter lundi prochain dans leurs écoles respectives, mais dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19. Cet appel est lancé ce lundi sur les ondes de Radio Okapi et du chef de la division provinciale de l'EPST Nord Kivu 2. Le provède Ada Kudawa invite également tous les chefs d'établissement à mettre les dispositifs sanitaires dans leurs écoles au cours des 7 semaines afin de bien accueillir les élèves. Il est dit au micro de Grâce Hamzati.
Nous avons demandé à tous les gestionnaires et à tous les acteurs de informer tous les chefs d'établissement. Quand on va reprendre avec les activités scolaires, ils doivent veiller sur la mesure barrière dans leurs écoles respectives. Par exemple, comme nous sommes cette semaine, les chefs d'établissement avec les enseignants doivent voir comment faire la propriété au niveau des écoles, afin que lundi, que ça ne soit pas le temps encore de faire l'entretien de la cour ou bien des salles de classe, c'est plutôt les enseignements. En tout cas, nous avons beaucoup insisté sur le respect des mesures barrières. Les enfants doivent se laver. Là où il y a des thermoflash, on doit prendre des températures à l'entrée tout comme au retour, même les portes de cache-nez. Nous avons fait personnellement la sensibilisation dans au moins 9 sous-divisions sur 12. Nous avons parlé des dangers de cette maladie. Nous demandons aux enfants d'être sereins, comme ils ont réclamé, ils ont même défilé, qu'ils soient ici à Boutembo, tout comme au niveau de Béni, par-ci, par-là, qui ont représenté toute la couche de la division provinciale, qu'ils soient vraiment le bienvenu dans les écoles, qu'ils puissent être sérieux, observer les mesures barrières. Heureusement, j'étais très content quand ils marchaient là, ils ont dit « nous allons respecter ».
Au sud Kivu, la route nationale RN3 de nouveau praticable entre la ville de Bukavu et l'aéroport de Kavumu. Les engins de la MONUSCO, sur demande du gouvernement provincial, ont réhabilité environ 7 kilomètres autrefois délabrés. La société civile des Kabare s'en félicite. Emmanuel et le Mejoua Kabedi.
La partie de la route concernée par cette réhabilitation est d'environ 7 kilomètres de longueur. Elle va de la sortie de la ville de Bukavu à Kazingo jusqu'à Amsar, un tronçon qui est resté longtemps dans un état de délabrement très avancé. Situation qui avait maintes fois provoqué des manifestations des habitants des localités riveraines. Aujourd'hui, la route de Kavumu est complètement réhabilitée et remise dans ses dimensions originales. Le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu affirme avoir répondu favorablement à la demande du gouvernement provincial et de la société civile. En dehors des engins qui ont correctement remblayé et supprimé les bourbiers, les contingents chinois ont débouché tous les caniveaux permettant ainsi le passage des eaux de pluie. Les utilisateurs de la route Bukavu-Kavumu qui roulent maintenant en toute quiétude oublient même déjà les bourbiers et certaines flaques d'eau. La société civile de Kabare remercie la MONUSCO pour avoir répondu à sa demande. Emmanuel Bengeya, son président, affirme la disponibilité des jeunes de Kabare dans l'entretien de cette route par le cantonnage manuel. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au nord Kivu, la situation humanitaire est préoccupante dans la région de Mutongo, dans le groupement Ihana, territoire de Walikale. Des centaines de familles ayant fui les affrontements entre deux factions de NDC rénovées sont amassées à la paroisse et au centre de santé Mutongo dans de très mauvaises conditions. C'est ce que rapporte l'ONG, foyer de développement pour l'autopromotion du peuple pygmé. Dans une déclaration ce mardi à Radio Kapi, les coordonnateurs de cette structure parlent des villages entiers qui se seraient vidés de leurs habitants depuis la reprise des affrontements entre deux groupes milices le 13 février dernier. Vicar Batundi Angui dit craindre un risque d'épidémie de choléra sur ces sites de déplacés si rien n'est fait d'urgence. Il est au micro des Sifa Maguru.
Suite aux nouveaux affrontements qui ont éclaté la semaine passée vers le 13 à Mutongo, toute la population de pas seulement Mutongo mais aussi Mianga, Mwiria, Mironge, toute la population est amassée à la paroisse de Mutongo et au centre de santé. Mais en même temps, il faut souligner que il y a le village Micheche, Manyema, Kaseke, Misoke qui se serait vidé de la population suite à l'insécurité. Donc c'est une situation dramatique parce que la population vit dans une misère. Et il est signalé 700 familles amassées à la paroisse de Mutongo. Et avec risque d'épidémie, surtout de choléra, parce que ces gens vivent dans des conditions inhumaines, sans eau, sans médicaments, dans une promiscuité. Donc il y a risque de maladie alors qu'il n'y a aucune assistance.
Cet acteur humanitaire demande au gouvernement de mettre en place des stratégies pour garantir la sécurité dans la région, mais aussi d'apporter une assistance d'urgence pour ces familles qui vivent longtemps dans une situation de crise liée aux conflits armés. Plusieurs dégâts causés par des pluies diluviennes ont été enregistrés à Sandoa dans la province de Lualaba. Au nombre des bâtiments touchés se trouve l'Institut Mwanga, la grande école du chef-lieu du territoire. À une semaine de la reprise des cours, les responsables de cette école et la société civile locale sollicitent l'intervention du gouvernement provincial du Lualaba pour sa réhabilitation. Marto Chimbula, responsable des jeunes au cadre des concertations de la société civile de Sandoa, est joint par Jean Gandou.
Il y a eu de fortes pluies qui se sont abattues à Sandoa dans la province d'Ilualaba, qui ont emporté les bâtiments de l'Institut Mwanga, une école gérée par les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Il y a eu des dégâts matériels importants enregistrés, entre autres la toiture des 7 locaux emportés, le vitre cassé, les plafonds abîmés, et ensuite il y a eu quelques maisons emportées. C'est pourquoi nous faisons appel au gouvernement et à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide, car Mwanga est la plus grande école du territoire de Sando. Sinon, les enfants vont chômer lors de la reprise des cours et ça sera difficile de reprendre le chemin de l'école. C'est un travail urgent qui nécessite le concours de tous.
Actualité internationale.
Au Rwanda, arrestation d'une activiste rwandaise fait le buzz sur les réseaux sociaux. La très critique Yvonne Idemang a été arrêtée ce lundi à Kigali, dans un pays où la liberté d'expression est assez limitée. La youtubeuse se retrouve accusée d'incitation au trouble à l'ordre public et d'avoir résisté à l'arrestation blessant un officier de police. En Inde, au moins 37 personnes ont trouvé la mort dans un accident de bus qui a plongé dans un canal. L'incident s'est passé ce mardi 16 février dans l'état de Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde, a déclaré la police à l'AFP. Aux États-Unis d'Amérique, le président américain Joe Biden effectue ce mardi son premier déplacement officiel depuis son investiture dans le Wisconsin, l'un des États qui lui a permis d'accéder à la Maison Blanche. La fin du procès en destitution de Donald Trump laisse les mains libres au Congrès pour commencer à travailler sur le programme du président qui entend faire voter au plus vite son plan de sauvetage de l'économie.
L'invité.
Notre invité, c'est Kasomo Malamasa, qui est coordonnateur pays de l'ONG Africa Amani, qui a fait une tournée dans la partie nord de la province du Nord Kivu, où il revient sur la situation humanitaire qui est catastrophique, mais aussi il se pose des questions sur la persistance du phénomène ADEF, alors qu'il y a des opérations militaires de grande envergure menées par l'armée. Il s'entretient avec Mathieu Ilunga Chambouyi.
Monsieur Kasomo Malamasa, bonjour. Vous venez d'une mission qui vous a conduit dans le Grand Nord, Butembo, Beni. C'est quoi le constat, l'état des lieux sur le plan humanitaire et sécuritaire dans cette partie de la province du Nord Kivu?
D'abord, nous avons trouvé une situation humanitaire très très catastrophique dans les jours à venir, c'est-à-dire beaucoup de déplacés qui viennent du secteur de Rwenzori, Mutuanga, Bulongo, parce qu'il y a eu des tueries là-bas. Il y a des villages qui se sont vidés de personnes. Vous arrivez l'axe Wicha et Ringeti, il n'y a plus de personnes. Mukoko là n'existe plus. Et Mbao, Mamboko, ce sont des villages qui sont en train de se vider. Alors ça attire vraiment l'attention de tout le monde. Donc nous devons beaucoup plus agir pour la paix dans ce secteur-là.
Mais c'est quoi le constat que vous avez fait?
D'abord, le premier constat, c'est que, comme nous sommes en train de vous dire, la zone d'opération de ces gens-là, le rayon d'action s'est augmenté. Alors pendant qu'il y a des opérations, on ne comprend pas comment ils ont gagné du terrain alors pendant que nos militaires sont. Ça, c'est le premier constat. En faisant une petite évaluation avec des questions posées à la population, ils nous ont révélé ceci. Il semble que la population ne veut plus attendre qu'on parle des ADEF. Parce que dire ADEF, ce sont les rebelles qui devaient attaquer l'Ouganda. Et pendant tout ce temps-là, on n'a jamais écouté que ces rebelles ont attaqué l'Ouganda. Ils sont en train d'œuvrer chez nous. On veut plutôt qu'on puisse faire une vraie identification de ces gens-là. Mieux de parler des terroristes au lieu de parler des ADEF. Ça, c'est le premier constat de la population. Donc, que nos services de l'État puissent savoir qui est en train de tuer la population. Mais appeler ADEF, que ce soit peut-être une simple appellation, mais en réalité, parler des ADEF, c'est se tromper de vie. Il faut plutôt parler des terroristes qu'on va encore identifier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que la population a perdu espoir et confiance envers nos armées et tous ses partenaires. C'est très dangereux. Et nous avons adressé des correspondances au gouvernement provincial, au gouvernement national et même à la MONUSCO pour leur montrer que maintenant la population se pose la question comment on y tue pendant que ceux qui sont censés nous protéger, ceux qui sont venus nous protéger ne font rien. Ça, c'est vraiment une chose très très dangereuse sur laquelle on doit travailler, parce que quand la population perd espoir, ça c'est très 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 dangereux, et même pour l'État. Voire même que sur le plan psychologique, quand la population voit toute personne habillée en tenue militaire, au lieu de dire que voilà, je serai sauvé, maintenant on a peur. On pense que non, c'est celui-là qui va lui faire du mal. Donc le constat est très très amer. L'État doit agir, les partenaires de l'État, la communauté internationale doit agir pour pacifier ces milieux-là.
Que le constat est amer, c'est quoi les recommandations?
Oui, Africa Money a fait les recommandations à tous les niveaux. C'est d'abord, les recommandations pour l'État congolais, c'est que la population elle-même, elle s'est dit être prête à accompagner et à aider l'État à faire tout pour que la paix revienne, c'est-à-dire la collaboration. Alors, Africa Money demande à l'État de revoir le vrai diagnostic qui tue réellement la population. Et que l'État puisse revoir aussi les stratégies. Parce que nous sommes en train de constater tous que les stratégies que l'État a mises en place ont échoué. On ne peut pas dire que l'État a réussi parce que bien avant, quand il y avait seulement un seul secteur qui était attaqué, et maintenant s'il y a cinq secteurs qui sont en train d'être attaqués, c'est-à-dire l'ennemi est en train de gagner du terrain. Donc l'État doit revoir ses stratégies. Et parmi ces stratégies, que l'État collabore avec la population. Ils peuvent même aider à être pisteurs, à montrer où sont passés ces gens-là. Alors nous demandons aussi à la communauté internationale de bien comprendre que ce ne sont pas les ADF, parce que quand on dit les ADF, ça, on est en train de perdre les pistes, on fait allusion aux gens qui vont attaquer l'Ouganda. Non, ce sont des terroristes. Il y a des terroristes ici. Nous recommandons à la communauté internationale, comme ce qui s'est fait en Mali, de venir s'investir ici, combattre ce terrorisme comme cela est en train de se faire en Mali.
Et à la population?
Oui, à la population, comme elle a fait le premier pas, nous demandons à la population d'avoir confiance et à toutes nos forces, d'abord les FRDC et d'avoir confiance aussi à la MONUSCO qui est venue en appui aux FRDC. Alors nous sommes en train d'appeler toute la population de se désolidariser avec les ennemis.
Monsieur Kassomo Malamassa, nous vous disons merci.
C'est à nous de vous remercier.
Ce journal a été coordonné par Élisée Chikota, supervisé par Alain Irung et Jean-Claude Nsial a assuré sa mise en onde. Vous pouvez les retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix.